إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, بإذن الله بعون الله عز وجل، nous continuons le cours qu'on a commencé hier et qui a pour sujet Minhaj al-Istidlal and al-Sunnati wal-Jama'a, c'est-à-dire donc la méthode argumentative chez les gens de la Sunna du consensus. Donc on avait vu qu'on allait traiter exactement de sept points qui concernent ce minhaj. On avait rappelé hier, c'était un sujet qui était important, un sujet qui est très vaste. Simplement, on donne les grandes lignes et on insiste sur certains points qui sont fondamentaux par rapport à ce sujet. Ça, c'est le but, en fait, du dars, c'est-à-dire que la personne elle puisse repartir et essayer ce qu'on a voulu par minhaj al-istidlal. Et elle a connu des points qui sont importants, et elle a connu les grandes lignes de ce cours. À la Kulli Hal, on a parlé donc du premier point, comme j'ai à titre de rappel, c'était Hasl Istidlal fi Dalil al-Shar'i, c'est-à-dire la restriction de l'argumentation dans la preuve argumentative. Et on avait vu qu'on revenait donc au livre d'Allah Azzawajal, on revenait à la Sunna du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, et on a détaillé qu'est-ce qu'on voulait par la Sunna du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, qu'est-ce qui entre dans la Sunna du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, et on a également détaillé certaines catégories de la Sunna et comment les gens de l'innovation, ils ont en réalité tenté soit de délaisser la Sunna de manière complète, de manière évidente, en disant on se réfère uniquement au Coran, et ça on a vu que c'était certaines sectes qui sont présentes. Certains qui ont pris un procédé qui était beaucoup plus vicieux et qui ont dit on divise la Sunna ou par rapport aux divisions de la Sunna quant à aux chaînes de transmission, au nombre de rapporteurs qu'on trouve dans les chaînes de transmission. Donc, on avait parlé de l'hadith al-mutawatir ou l'hadith al-ahad. On a vu comment les gens d'innovation, ils avaient différencié entre les deux, ils avaient accepté une partie, ils avaient refusé une autre partie. Ça, on a détaillé hier, avec les hadiths, simplement de rappel. Ensuite, le deuxième point, on avait parlé que les gens de la Sunna du consensus, ils reviennent donc après avoir défini exactement ce qu'était le dalil al-shar'i, ils reviennent quant à la compréhension de ce dalil al-shar'i, c'est-à-dire la preuve législative, ils reviennent à la compréhension qu'en ont eu les plus prédécesseurs. Et à leur tête, bien entendu, les sahaba, c'est-à-dire les compagnons. Comment ils ont compris les preuves du Coran de la Sunna, car ceux qui ont témoigné de la descente du Coran et ceux qui ont pris la science de la bouche du prophète sur Salam directement. Donc c'était eux les plus aptes à comprendre et à définir ce que le prophète Islam il a voulu, ce qu'Allah Azzawajal a voulu à travers donc leurs paroles. Ensuite, on a parlé du troisième point. Donc après, il nous restera encore quatre points. On va finir ce troisième point. On avait parlé de certains points qui concernent ce qu'on appelle Mara'atu Qawa'id al-Istidlal, c'est-à-dire ce qui est en relation avec les règles de l'argumentation. Et on avait vu un point qui était très très important, qu'on a commencé à détailler hier et qu'on va finir aujourd'hui. On s'arrêtait aux exemples, on va reprendre, et à titre de rappel, on va reprendre le début de Al-Faqra, le début du chapitre, et qui est en réalité Bab al-Muhkam al-Mutashabi. Bab al-Muhkam al-Mutashabi. On a vu que dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous indique, dans son livre lui-même, subhanahu wa ta'ala, il nous indique qu'il y a des versets qui sont dits muhkam et des versets qui sont dits mutashabi. Il faut savoir que lorsqu'on dit, bien entendu, les versets du Coran, ça concerne également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont être considérés comme muhkam et d'autres qui vont être considérés comme mutashabi. Donc c'est pas uniquement sur le Coran. Et on a vu également la relation auparavant qu'il y avait entre le Coran et la sunna. On a vu les trois catégories, que ce soit la sunna al-muakkada ou la sunna al-bayaniya, ou le sunnat al-istiqlaliya. Et donc à partir de là, on va s'apercevoir que automatiquement, il va rentrer dans la sunnah également ce qui est mutashabi et ce qui est muhkam. Et à la fin du hal, on avait rappelé le verset في القرآن الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. Donc on va expliquer ce verset et citer donc la preuve. Allah Azza wa Jalla nous informe bien qu'il y a des versets qui sont dits muhkam et des versets qui sont dits mutashabih. Pour ce qui est du muhkam, al-muhkam, on a dit وَالَّذِي يَحْرَمِ الْوَجْوَى وَاحِدْ فَقَدْ c'est-à-dire celui qui va comprendre une seule explication. Une seule explication. C'est-à-dire que ce verset-là, il ne prête pas à confusion quant à la compréhension du verset même. Un seul aspect pour l'explication du verset. Et pour ce qui est de l'intashabi, أكثر من وجه يحتمل أكثر من وجه. On avait dit في الغالية وجه يوافق الحق ووجه يوافق الباطل أو خلاف الحق. C'est-à-dire un aspect qui va être en conformité avec la vérité. Et comment on va savoir cela? C'est bien entendu ici en revenant à منهج الصحابة ومنهج التابعين وأتباع التابعين سيدنا منهج السلف في هذا الباب وهو رد المتشابه إلى أشد المحكم c'est-à-dire faire revenir pour comprendre ce verset qu'il a dit متشابه et qui comprend donc plusieurs aspects compréhension quant à son explication on va le faire revenir pour comprendre réellement quelle est la bonne explication qu'on va en tirer on va le faire revenir lui au verset qui dit محكم au verset qui lui ne prête pas à confusion quant à la compréhension. Ça c'est une âge al-sunnati wal-jama'a. Par contre, donc, les gens de l'innovation, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre al-mutashabi, ils vont en tirer le sens que eux ils veulent et qui est en réalité mukhalif et muhkam. Parce que s'ils auraient pris ménage al-sunnati wal-jama'a, ils auraient pris donc la voix des gens de la sunna du consensus. Ils auraient fait revenir ce verset qui est dit il leur a fait revenir en Murkam, automatiquement, ils n'avaient plus donc de moyens de rentrer dans leur propre interprétation. Est-ce que ce qu'ils veulent, en conformité avec leur passion, est-ce que eux, ils croient? Donc, ça, on avait expliqué que c'était Al-Mutashabi ou Al-Murkam ou Al-Mutashabi. Et on avait vu que c'était vraiment quelque chose qui était très important, que ce soit les sectes d'auparavant jusqu'à nos jours. Maintenant, si vous entendez les gens d'innovation qui parlent, ils prennent comme preuve des versets du Coran. Ils prennent comme preuve des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou pas? Oui, ils le prennent. Ils prennent cela comme preuve. Ils vont dire, par Allah, par Rasulullah. Taïr, lakin, dans la plupart des cas, il y a 90%, ils se rentrent dans le mutashabi. C'est-à-dire, ils ont pris ce qui peut prêter à la confusion quant à la compréhension du verset ou quant à la compréhension du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui est de ce fiyad al-bab, ce qu'il faut retenir et qui est essentiel, c'est que minhaj, al-salaf minhaj al-sunnati wal-jama'a, wa rad al-mutashabi ila al-muhkam. L'istikhraj al-wajh al-sahih min dilalat al-aya ou al-hadith. On va donner maintenant des exemples pour que ce soit beaucoup plus clair. Comme on dit, lorsqu'on donne l'exemple, ça devient beaucoup plus clair. Le premier exemple qu'on va donner, c'est par rapport à Nasara. Par rapport aux chrétiens. Les chrétiens, en réalité, pour prêter la confusion, ou alors pour semer la confusion chez certains musulmans qui n'ont pas la science suffisante, ils vont prendre un verset du Coran et ils vont dire qu'en réalité, ce verset prouve bien que Isa est une partie d'Allah, par Allah en galique. Et donc, soit il est son fils, ou alors qu'il est lui aussi Allah. Souvent, bien entendu, leur credo à eux, suivant leur croyance, al-Nasara. Et ils vont prendre ce verset, qui est le suivant, qu'on retrouve dans le Coran, « Wa kalimatuhu al-qaha ila Maryam, wa ruhu minhu. »« Wa kalimatuhu al-qaha ila Maryam, wa ruhu minhu. » Donc, on sait que Isa a une particularité, qu'il est né sans père, et que « kalimatuhu », c'est-à-dire « kalimatullah », qui est « kun », il était insufflé directement donc dans Maryam. Et qu'ensuite Maryam elle était enceinte et que donc elle a enfanté donc Jésus, ce prophète qui est né sans père. Ça c'est la particularité de Isa, c'est notre croyance par rapport à Jésus. Dans la suite du verset, Waruhu minhu, donc un esprit de lui. Ils ont dit ici donc Ruh minhu, c'est tout simplement Ruh minhu yarja' al-damir ila Allah azza wa jal, mais Ruh min Allah. Et ici al-min bima'na tabghir, c'est-à-dire d'Allah azza wa jal, qui fait partie donc d'Allah azza wa jal. Donc regardez, ils ont pris cette ambiguïté que l'on peut trouver dans la compréhension du verset. Ruh minhu. Et bien entendu, les savants nous ont expliqué que tout simplement, et on trouve beaucoup, il y a cela dans le Coran, que c'est ici l'idafa, l'tashrif, c'est par honneur, par rapport à Isa. Comme on trouve Naqatullah, on trouve dans le Coran Naqatullah, c'est-à-dire la chamelle d'Allah. Ça veut dire que la chamelle fait partie d'Allah Azzawajal, là. Udifa il Allah Azzawajal, mais il y a un bad, la tafrim, l'ifa le Baytullah. Baytullah, de même. On sait que c'est annexé à Allah Azzawajal, mais il y a un bad, le tashrif, c'est-à-dire que ça fait partie d'Allah Azzawajal. Donc, quelle est l'ambiguïté qu'ils ont pris? Ils ont essayé, bien entendu, les versets, eux, qui sont muhkam dans le Coran. S'ils seraient revenus aux versets qui sont muhkam, donc je prends le terme muhkam, parce que tout le monde a compris, qui sont donc muhkam dans le Coran, automatiquement, ils auraient su que ce qu'ils disent, c'est batil. Et ils le savent, de toute manière, mais c'est donc la méthode. Des gens du coup, il faut avoir des gens d'innovation. Et parmi les versets, Inna mathala Isa andallah, ka mathali Adam, khalaqaw min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Donc ça c'est plus que clair. Et qu'il a donc été créé de terre. Et qu'Allah Azzawajal a dit pour sa création « Kun fayakun ». Et donc il a été. Soit donc il est. Donc on voit que c'est un verset qui est plus que clair. Et d'autres versets encore. Comme « In huwa illa abdun an'amna alayhi ». C'est-à-dire, ce n'est uniquement un esclave. Et nous lui avons fait donc, on lui a donné donc des faveurs. On lui a fait grâce par rapport aux particularités qu'il a eues à Issa. Le fait qu'il est né sans père, qu'il a parlé alors qu'il était encore un bébé, etc. Et tout ce qu'on sait, toute une croyance par rapport à Issa. Ça, c'est un exemple. Donc on voit les versets qui sont marquants, qui sont plus que clairs par rapport à notre croyance envers Issa. Et on a vu comment les chrétiens, ils ont pris les versets qui sont mutashabih, comme ce verset-là, ou Ruh minhu, particulièrement cette partie du verset, ils ont dit, donc on voit que même vous, dans votre croyance, vous attestez cela directement ou indirectement. Ça, c'est pour Al-Nasara. Mais là, on va prendre également un autre exemple. Un exemple qui, maintenant, est en relation avec Al-Khawarij. De même, ils ont utilisé le même procédé. Ils ont pris des versets qui sont dits Mutashabi, et ils en ont fait, ils en ont tiré donc ce qu'eux, ils ont voulu. Ils n'ont pas donc, fait revenir ce verset-là à ce qui est Murkan. À titre d'exemple, le verset suivant, « Oman yasillah wa rasoulahu wa yatahadda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha » C'est-à-dire celui qui va désobéir à Allah Azzawajal. On voit ici, Niyasillah, c'est-à-dire qui désobéit, le verbe Asa, le fait de désobéir. Celui qui désobéit à Allah Azzawajal, son prophète, et qui dépasse ses limites, et qui dépasse ses limites, alors il rentre. Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah Azzawajal, il le fait rentrer dans le feu de manière éternelle. Ils ont dit ici, donc c'est une preuve maintenant, ce verset c'est une preuve, que celui qui désobéit à Allah Azzawajal, et bien entendu par rapport à eux, parce qu'il est empêché. Qui va rentrer dans le feu éternellement. Et qui dépasse les limites d'Allah Azzawajal, il rentre dans le feu éternellement. Celui qui rentre dans le feu éternellement, c'est le kafir. Pourquoi? Parce que le musulman, c'est impossible. Celui qui reste musulman et qui n'est pas tombé dans le shirk, ce qui fait sortir de l'islam, c'est impossible donc qu'il devienne lui mécréant. Et là, ce musulman, donc, un jour, même s'il rentre dans le feu, un jour ou l'autre, il va sortir de l'enfer. Donc ici, on a le verset, Naram Khalidan Afir, c'est-à-dire il rentre dans le feu de manière éternelle. Ils ont pris ce verset. Adam Mutashabi, on peut le comprendre comme ça. Mais si on le comprend comme ça, ou à Mukhalif, une ayat al-muhkamat, c'est-à-dire ça va être en complet désaccord avec les versets qui sont dits, ou les versets qui sont dits muhkam. Et le type d'exemple parmi ces versets qui sont muhkam, et dont les gens de la sunna, ils ont fait revenir ces versets-là à ce verset, ce type de verset muhkam, pour bien comprendre ce qu'on veut par là. C'est-à-dire ce que veut dire le verset, et quel est al-wajj, al-muwafiq lil-haq. Parmi les versets, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc c'est une preuve qu'en dehors du péché du shirk, du péché de l'associationnisme, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, Allah Azza wa Jalla, il pardonne. C'est-à-dire qu'il pardonne, c'est bien entendu, à condition que la personne ne fasse pas repentir. Donc on voit ça, c'est un verset qui dit muhkam, qui ne prête pas confusion quant à son. Sa compréhension et par rapport à l'explication qu'en ont donné les savants. Donc les savants, ils ont pris ces versets-là et ils ont dit automatiquement, ça, c'est soit pour la personne qui pense ou qui a la croyance que ce qu'il fait c'est permis alors que c'est interdit, voyez, ou alors il y a ni celui qui va dépasser les limites ou celui qui va yarsillah wa rasulahu, ça rentre dans le domaine des grands péchés, comme le grand péché qu'on pardonne pas, le shirk. Le grand péché qu'on pardonne pas, le shirk, ou alors également le kouf ou anwar al-kouf, c'est-à-dire la mécréance, bien entendu, qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est un exemple. Également, ils ont pris un autre verset du Coran, وَمَنْ يَخْفُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. C'est-à-dire, également, par rapport à ce qui est de ce verset, celui qui va tuer un croyant, مُتَعَمِّدًا, c'est-à-dire délibérément, volontairement, alors il va rentrer dans l'enfer. Il y restera donc éternellement. Sa récompense ou sa rétribution sera l'enfer. Il va y rester éternellement. Ils ont dit donc, celui qui tue un musulman, un croyant, le fait de tuer un croyant, c'est pas un acte qui fait partie du shirk. C'est donc un grand péché, qui est le qatl an-nafs. Mais ici, Allah Azzawajal nous informe que cette personne-là va rester dans l'enfer éternellement. Donc, à partir de là, celui qui va rester dans l'enfer éternellement, c'est un kafir. Donc, à partir de là, comment donc ils vont s'appuyer sur ce verset. Et donc, celui qui va rester dans l'enfer éternellement, c'est un kafir. C'est un écran. Et donc, c'est celui qui a tué qui? Qui a tué donc un croyant. Donc il a uniquement tué, il n'a pas fait sans faire un acte de politisme, pourtant il rentre en enfer éternellement, donc c'est un kafir, et donc ça fait une preuve que les grands péchés font bien entrer en enfer éternellement, et que ces gens qui font cela sont des kuffars. Donc également, ça peut y avoir. On peut comprendre cela. Même certains savants parmi les salafs, ils ont dit que la personne qui tue, certains ont dit que la personne qui tue reste. Allah Azzawajal ne lui pardonne pas, et il reste tiré en enfer. Mais ils n'ont pas dit qu'il est devenu mécréant à cause de cela. C'est-à-dire qu'il est devenu mécréant à cause de ce péché-là. Donc on voit que là, Moutachab, ça prête un peu prête à confusion. Si une personne maintenant vous dit, sans que vous connaissiez les règles du Coran, sans que vous connaissez le Maqam ou le Moutachab, s'il vous informe de ces versets-là, et également, quand ils reviennent à la Sunna, donc on ne détaille pas tout pour ce qui est de Al-Balbar, ça prête à confusion. Et la personne donc peut prendre leur credo à partir des versets du Coran, mais qui sont en réalité une fiyad al-bad, mutashad. Également, une autre secte dans l'islam, qui ont utilisé le même procédé, donc on voit, ils utilisent tous le même procédé. Celle Jahmiya, et ceux qui les ont suivis, parmi les gens d'innovation, et qui disent qu'Allah Azzawajal, il est partout, fi kulli mekan, et qu'Allah Azzawajal, il n'est pas au-dessus de son trône, au-dessus de nous, au-dessus de son trône, mais il est partout, fa'alallah an-dhalik. Et ils vont prendre également des versets qui sont dits mutashad, que si on prend juste ce verset-là, on peut le comprendre comme cela. Si la personne a conscience, et si elle ne prend pas l'image des salafs, qu'elle ne prend pas ces versets, qu'elle ne fait pas revenir au muhkam. Parmi ces versets, وَوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Et il est avec vous, où que vous soyez. Alors, mutashadi, c'est-à-dire dans le sens, on pourrait comprendre que Allah Azzawajal, il est avec nous, là où on se trouve. Et donc, par rapport, bien entendu, à tous les humains, c'est-à-dire فِي كُلِّ مَكَانٍ. Et également un autre verset qu'ils vont prendre, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَلِيدِ. C'est-à-dire, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Également, ils vont dire, ça c'est une preuve qu'Allah Azzawajal, il est proche de nous, donc il est avec nous. Donc regardez l'interprétation qu'ils ont fait. Ils ne sont pas revenus donc aux versets qui sont du Murkam et qui ne prêtent pas à confusion par rapport à la compréhension. Comme à titre d'exemple, le verset suivant, c'est-à-dire, Al-Qahir, il est au-dessus de quoi? Il est au-dessus donc de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il s'est établi sur son trône, bien entendu, son trône qui est au-dessus des cieux. Ça, c'est le murkam. Il n'y a aucune donc, ambiguïté quant à la compréhension. Donc, ils ont délaissé cela, ils n'ont pas fait revenir ces versets. À ces versets-là, pour comprendre qu'Allah Azzawajal est au-dessus. Et que ce qu'on interprète par rapport aux deux versets qu'on a cités, « Wa ma'akum inna ma'kuntum », c'est par rapport à sa science. Allah Azzawajal, « Al-ma'iyatul amma », c'est-à-dire qu'il sait tous ses serviteurs, et qu'il est avec nous qu'on soit, qu'il soit musulman, qu'il soit mécréant. Allah Azzawajal, il sait tout de ce qui se passe dans cet univers, il est partout avec nous, il sait ce qu'on fait. Donc c'est le sens du verset. De même pour ce qui est du deuxième verset, « Wa nahnu aqrabu ilayhi min habril walid », donc deux interprétations des savants, ceux qui ont dit qu'il est plus proche de nous, par sa science également, et ceux qu'ils ont interprété, et qui est une parole également qui est très forte par rapport à l'istidlal, qu'ils ont dit ici, Al-Maqsoud, c'est les anges. Al-Maqsoud, wa nahnu wa qadu ilayhi min habril walid, ça veut dire en réalité les anges. Donc on voit encore un procédé qui utilise le même procédé. Un mutashabi, et on l'explique suivant ce que nous on veut, c'est-à-dire le wajh al-qasid, par rapport aux gens de l'innovation. Ça pour ce qui est de l'Jahmiya. Également par rapport à l'Jahmiya ou al-Mu'tazila, pour ceux qui renient la vue d'Allah Azzawajal dans l'au-delà. Par rapport donc aux versets qui sont clairs, aux hadiths du prophète Sussan également qui sont clairs, et qu'ils attestent qu'Allah Azzawajal sera vu dans l'au-delà. Et ça, c'est la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Taïb. Eux, ils vont prendre des versets du Coran également, qui sont dits mutashabi, c'est-à-dire yahtam al-wajh, wafir lil-haq, wawajh, mukhalif lil-haq. Parmi ces versets-là, ils ont dit, lorsqu'Allah Azzawajal il a dit à Moïse, lorsque Moïse il a demandé de voir Allah Azzawajal, il a dit à Allah Azzawajal dans son Coran, l'an-tarani, c'est-à-dire l'an ici, c'est pour nier, cette négation, ça s'applique dans le futur. L'an-tarani, c'est-à-dire tu ne verras jamais. Donc ils ont pris ce verset qui peut prêter à ambiguïté ou à confusion par rapport à son sens linguistique. Car l'antarani, ça veut dire même, tu ne le verras pas, et même dans le futur, l'âme. Ils ont pris ce verset, ils ont dit, c'est une preuve qu'on ne verra jamais notre Seigneur. Et ils ont pris également un autre verset du Coran. La tudriku l'absar, wa yudriku l'absar. La tudriku l'absar, wa yudriku l'absar. Ils ont pris ce verset, ils ont dit également, ça c'est une preuve qu'Allah, on ne le verra pas, Allah Azzawajal, dans l'au-delà. Et ils ont donc délaissé les autres versets du Coran, comme le verset suivant, Ujuhum yawma idin na'vira, ila rabbiha na'vira, ila rabbiha na'vira, c'est-à-dire qu'ils vont regarder dans l'au-delà leur Seigneur. Ila rabbiha na'vira. Un verset qui est plus que clair. Quel est également ce qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au minbar de tawatur. Ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce que veut dire le terme maintenant tawatur? Tout le monde le sait lorsqu'on dit minbar de tawatur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avec un tawatur bil ma'ana, comme on l'a vu, dans la signification, c'est pas fil-dawa. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'on verra notre Seigneur. Pour ce qui est du premier verset d'Antarani, c'est bien entendu fil-dunya. Qu'Allah Azzawajal ne sera pas vu dans la dunya. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué, les savants, lorsque ils sont revenus donc au verset mortin, qui nous prouve qu'on verra Allah Azzawajal. Donc, le maqsoud, c'est que Moïse et donc tous les autres, parmi les hommes, ils ne verront pas Allah Azzawajal dans cette vie d'ici-bas uniquement. Par contre, dans l'autre vie de l'au-delà, ils le verront. Pour ce qui est du verset, de l'autre verset, la Tudrikul Absar, ou Yudrikul Absar, ils ont donné également plusieurs explications. Al-Ibimara, Al-Ibrak, Unak, la Tudrikul Absar, Ma'ala Al-Ibrak, Al-Ihata. Al-Ihata, c'est la fête. Al-Ihata, c'est le fait de cerner quelque chose totalement. C'est donc ici, lorsqu'il dit Allah Azzawajal, la Tudrik ou l'Abbasar, l'imana, qu'on ne va pas cerner Allah Azzawajal totalement de par notre vue. On va voir Allah Azzawajal, mais on ne va pas voir Allah Azzawajal tout en entier. La Tudrik ou l'Abbasar. Et comme l'ont dit certains salafs comme Qatada et d'autres, ou A'adamu, un Tudrak. C'est-à-dire, il est bien plus grand qu'on le cerne totalement avec notre vision. Donc, regardez le terme exactement ce qu'il veut dire, Al-Idrak. L'autre égale Al-Idrak, non ce verset. Ce n'est pas une preuve de ce qu'eux, ils ont avancé pour dire qu'Allah Azzawajal ne sera pas vu. Et qu'ils ont dit donc, Al-Idrak, bimana ru'ya. Al-Idrak, bimana ru'ya. Bimana la tudriku l'absar. C'est-à-dire, an al-absar, la tara Allah Azzawajal. Fi al-id dunya ou fi l'akhira. Ça, c'est le maqsoud. Ou c'est ma'ana al-aya. Comme l'ont compris les gens d'innovation. Comme l'ont voulu interpréter les gens d'innovation. Alors qu'al-Idrak, c'est pas ru'ya. Al-Idrak, c'est ru'ya wa shizaïd. À la ru'ya. Wa yal ihata. Le fait donc de cerner. Totalement. Ça également, c'est une preuve qu'ils ont pris du Coran et qui est une babel mutashabihat, qui prête donc, qui peut prêter à confusion quant à son explication. Et d'autres savants qui ont dit, la tudrikul absar, c'est-à-dire fil dunya, c'est-à-dire que même si on prend ce verset par rapport uniquement à ru'ya, c'est uniquement fil dunya et non dans akhira. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire revenir le verset fil al-muhkam, on va comprendre donc, et c'est bel et bien, Allah Azzawajal, on verra bien dans l'au-delà, mais on ne verra pas dans la vie d'ici-bas. Et on sait que lorsqu'on fait revenir chaque fois le verset Mutashabi et le verset Muhkam, on va s'apercevoir donc que le Coran, à ce moment-là, il est clair, qu'il n'y a aucune contradiction entre les versets du Coran. Et Allah Azzawajal, il dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافٍ كَثِيرًا. C'est-à-dire, ne médite-t-il pas sur le Coran? Il serait un autre qu'Allah Azzawajal, ils auraient trouvé certainement beaucoup de contradiction dans le Coran. Alors que dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Et que les gens de science, ar-rasikhuna fil 'ilm, ceux qui sont enracinés dans la science, ils savent comment on comprend les versets du Coran. Ils savent à quel moment le verset est mutashabih et à quel moment donc on le fait revenir à l'murkab. Pour bien être en évidence, il n'y a aucune ambiguïté dans la compréhension des versets du Coran et qu'entre eux, nous sommes des combats ou barbares. Également, par rapport aux ambiguïtés et avec le même procédé, Al-Shi'a, les chiites, Al-Shi'a, Al-Rawafid, Al-Shi'a, Al-Rawafid Al-Yum, ce sont les Shi'a, qu'on appelle les chiites, on les appelle Rawafidites, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence, contrairement même au premier siècle, où il y avait une différence, les gens laissent entre les chiites ou Al-Rawafid. Par contre, pour ce qui est de nos jours, les chiites, c'est en réalité Al-Rawafid. Et c'est ce dont par les gens laissent qui ne sont pas considérés comme des musulmans, qui sont considérés comme des mécrans, Al-Rawafid. Donc c'est eux. Al-Rawafid, neuf séchés. Yanni, c'est la même chose. Ils ont pris des hadiths du prophète Sam, et pratiquement un hadith du prophète Sam, qui est le suivant. Lorsqu'il a fait sa khutbat al-wada', ou fi hajj al-wada', c'est-à-dire lorsqu'il a le pèlerinage de lieu, il a fait une khutbat devant ses compagnons. Où il a dit, la tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. C'est-à-dire, ne retournez pas après moi, mes créants. Que certains de vous combattent les autres, c'est-à-dire hein, ils les combattent avec l'épée. Et on sait qu'il y a eu des fitnas ensuite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a venu des fitnas. Ces fitnas-là sont bel et bien venus. Donc il dit ça, c'est bien une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en évidence qu'il y a parmi eux les sahaba qui vont devenir mécréants, qui vont se combattre. Ça, c'est l'ambiguïté qu'ils ont mis. Par rapport à quoi ? Par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont oublié les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont également oublié les versets du Coran qui sont plus que clairs pour ce qui est de tous les compagnons du prophète. Donc, même chose, ils ont pris ce qui est mutashabih, ils n'ont pas de revenir à ce qui est muhkam parmi les versets du Coran, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont plus que clairs par rapport à ce qui nous a obligé le comportement que l'on doit avoir, la conscience que l'on doit avoir envers les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ça donc, c'est pour ce qui est de la troisième partie. On a dit qawaid al-istilah, elles sont nombreuses. On peut parler ici dans ce cours qui restreint par rapport au temps, on ne peut pas donc tout développer. C'est ce qu'on, donc on en restera là. Bab al-Murkan al-Shabi. Mais la personne qui a bien compris cela, il va comprendre déjà beaucoup de choses quand il lit le Coran. S'il a des ambiguïtés, ou qu'il revienne au tafsir du Coran, qu'il revoit comment les gens de la Sunna, dans leur tafsir, ils ont expliqué ces versets. Et ils ont pris donc la méthode des gens, des salafs. Ensuite, quatrième point, c'est-à-dire que les gens de la Sunna, lorsqu'ils argumentent et lorsqu'ils parlent de la croyance, ils vont s'écarter des termes qui sont dits innovateurs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas présents du temps de la descente du Coran et du temps du prophète sur cela, mais qui n'ont pas été utilisés par les salafs, c'est tout le sahaba, tabi'in, tabi'in. Et ça, c'est le minhaj de Al-Sunna. C'est pour ça que Ibn Abi al-Izz, il dit dans son livre, Sharh al-Tahawiyya, il dit, التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية والنبوية الإلهية هي سبيل أهل السنة والجماعة. C'est-à-dire exprimer la vérité par les termes qui sont donc pris de la Sunna du Prophète صلى الله عليه وسلم, qui sont pris des versets du Coran, النبوية الإلهية, c'est en vérité la voix des gens de la Sunna et du consensus, contrairement aux gens de l'innovation. Donc les gens de l'innovation, ils ont fait rentrer des termes dans la croyance, des termes qui n'étaient pas présents dans du temps des compagnons, qui n'étaient pas présents du temps des salafs. Et ils ont voulu par ces termes-là, toujours, ça c'est le c'est-à-dire c'est ce qu'ils veulent à la fin, c'est faire et amener rentrer le musulman dans l'ambiguïté, pour qu'ensuite il suive sa croyance, voilà son chemin. À titre d'exemple, pour ce qui est de la croyance, ils ont fait beaucoup ça dans le film Asma au Sifat. Ils ont beaucoup fait cela en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. À titre d'exemple, ils ont parlé, pour Allah Azzawajal, ils ont parlé de Al-Jihad. Al-Jihadu. Al-Jihadu en arabe, ça veut dire la direction. Et ça, on l'a détaillé dans le cours qu'on avait fait, parce qu'on a expliqué le livre de Charles Refaini, qui est Qawad al-Mufla. Donc, Al-Jihad, c'est un terme qui n'a jamais été employé, pas dans le Coran, qui n'est pas été employé par les sahaba, qui n'est pas été employé par les salafs, Al-Jihad, la direction, par rapport à Allah Azzawajal. Donc eux, ils ont pris ce terme-là, mais ils ont voulu, bien entendu, avec ce terme-là, ce qui est barré. Vous voyez ? Ils ont voulu, par rapport à ce terme-là, ce qui est barré. Et les gens de la Sunna, bien entendu, lorsqu'ils voient que ces gens-là, ils utilisent un terme qui n'était pas du temps des compagnons, du temps de la révélation, qu'est-ce qu'ils font ? ils utilisent ce terme, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre ce terme-là et ils vont mettre en évidence ce que l'on comprend de ce terme-là pour que ça soit en conformité avec Al-Haq. Donc, eux, ils ont fait à titre de nécessité, pour pas qu'il y ait ambiguïté. Ils ont dit, on reprend ces termes-là, on voit qu'ils vont réutiliser ces termes-là, les gens de la Sunna, uniquement pour mettre en évidence aux autres musulmans quel est ce que l'on comprend par ces termes-là, pour pas les laisser donc dans l'ambiguïté. Ils ont fait ça, ils ont fait par nécessité. Mais eux, ils n'utilisent pas ces choses-là. Ils le font juste uniquement à ce titre-là. Donc, pour ce qui est Al-Jiha, ils ont dit, s'ils veulent par là, Al-Jiha, c'est-à-dire la direction d'Allah, qu'Allah Azzawajal, il est au-dessus de son trône, il est au-dessus de nous, au-dessus de toutes les créatures, et que rien n'est au-dessus d'Allah Azzawajal, alors c'est un terme qui va être vrai si on le comprend de cette manière-là. Et bien entendu, ce que nous on doit faire, c'est de s'écarter de ces termes-là. Ça, c'est un type d'exemple. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'exemples. Pour ce qui est de l'asma wa sifat, pour ce qui est également d'autres termes, lorsqu'ils décrivent Allah Azzawajal. Ala kulli hal, ça, c'est le quatrième point. Ensuite, pour ce qui est du cinquième point, lorsque les gens de la Sunna, ils argumentent, ijtinab al-khusumat wal-jidal, c'est-à-dire qu'ils s'écartent de tout ce qui est en relation avec ce qu'on appelle al-jidal ou al-khusumat. Donc le fait, on traduit al-jidal par le fait de polémiquer. Al-khusumat, c'est-à-dire le fait d'avoir une conversation qui n'a aucun fruit avec une personne et qui rentre uniquement ce qu'on appelle la polémique, qui ne porte aucun fruit. Les gens de la Sunna et du consensus et les premiers parmi les salafs se sont écartés de cela. Et c'est pour ça que le prophète Sam nous indique un hadith qui est plus que clair dans ce sens. Et on suffit à cela, même sans rapporter toutes les paroles des salafs dans ce qui va dans le sens, on suffit de se verser. Pour comprendre ce hadith du prophète Salam, pour comprendre que la question n'est plus que claire, et qu'il y a ici donc une interdiction de rentrer dans ce qu'on appelle Al-Jidal. Il nous dit, le prophète Salam, qui le hadith qui est rapporté par Abu Umama, radiallahu ta'ala anhu, et Sanadin Sahir, pour le Nabi sallam, ma dhalla qawmun ba'du hudan kanu alayha illa utu jadalan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un peuple qui était sur une voie droite. Qui étaient sur une voie droite et qui se sont donc ensuite divergés. À quel moment ils sont divergés? Lorsque Allah Azzawajal leur a donné le Jidal, c'est-à-dire de par le Jidal qu'ils ont fait et qui est donc tombé ou qui a été présent chez eux, ils se sont écartés de quoi? Ils se sont écartés de la vraie voie. C'est ça qu'il dit, ma bonne la promo. Il n'y a pas un peuple qui s'est écarté sans qu'il y ait eu cette maladie qui est Al-Jidal. Al-Jidal ou Al-Jidal? Qui est le khusumat, donc le fait de polémiquer. Donc les gens de la Sunna, ils s'écartent de polémiquer avec les gens d'innovation. Ils s'écartent totalement de faire cela. Et celui qui suit vraiment le minhaj, il ne va pas s'aventurer à aller polémiquer avec des gens qui ont une croyance qui est différente, qui ont un minhaj qui est différent de lui. Sauf si, bien entendu, la personne est prête à écouter, ce n'est pas une polémique, et la personne qui va donc en effet un nasiha, qui va faire un conseil, qui va donner un conseil, elle va être écoutée, et cette personne-là, elle a l'habilité. Vous voyez, ça, c'est les conditions. Et à titre d'exemple, je me rappelle une cassette qui avait été enregistrée avec Charles Albani, qui racontait la confrontation qu'il avait eue avec Abdullah al-Habashi. Tout le monde connaît Abdullah al-Habashi, qui était donc le fondateur de cette secte, al-Habash. Et Abdullah al-Habashi, il était venu jusqu'à Charles Albani pour faire donc une confrontation, pour avoir une confrontation avec lui. Il était venu jusqu'à le voir dans sa bibliothèque. Et Charles Albani, rahmallah, quelle a été en fait sa position? Il a dit, Tayyib, si tu veux faire une confrontation, alors automatiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver, on va se retrouver dans la mosquée, et il y aura donc des frères avec nous qui vont noter ce qui va être dit par rapport au point de la croyance, sur le point où toi, tu es en divergence avec nous. Et là où il a fait cela, ça a duré peut-être à peine un jour, et après, une sahaba, c'est-à-dire qu'il est parti. Il a vu qu'il n'y avait aucune faute. On voit ici qu'on n'est pas dans le tutelle, mais on est bien ici avec des règles et avec une personne de science, et que le but, c'est tout simplement de faire revenir la personne sur le droit chemin, pas rentrer dans le tutelle. Donc ça également, ça fait partie du ménage des gens de la sunna. Également un point qui est essentiel, et qui est ici le sixième point, l'avant-dernier point, qui est « Tardim al-naql al-al-aql » منهاج أهل السنة والجماعة يقدمون النقل على العقل والنقل c'est tout simplement la révélation. Lorsqu'on dit النقل ما نقل إلينا من الوحيان, c'est-à-dire que ce soit du Coran ou que ce soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. parce qu'ils ont revenu comme texte du Coran de la Sunna, on les met en avant et en priorité. C'est sur notre raison, raisonnement. Si on voulait parler de cela, il nous faudrait des cours et des cours pour parler de cela. On voit que même des savants comme Charles Sam Ibn Taymiyyah, ils ont écrit des livres sur ce sujet. Ils ont mis en évidence qu'en réalité, l'Aqle, elle n'est pas en divergence avec l'Aqle, si l'Aqle, c'est un autre raisonnement, il est salim, il est suivant la fitra. Il n'y a aucune divergence, aucune contradiction entre cela et cela. Mais la contradiction, c'est par rapport aux gens qui en ont une maladie dans leur cœur, un raisonnement qui est faux et contradictoire. Donc les gens qui mettent en évidence, ou plutôt qui mettent en priorité leur Aqle par rapport à l'Aqle, ils vont tomber dans l'égarement. Et ça, c'est pas le ménage des Al-Sunnati ou Al-Jamara, Philistidal, c'est l'un de l'argumentation ou l'autre. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, à titre d'exemple, le Mu'tazila. Lorsque on est venu au texte qui parlait de Azab al-Qabr, c'est-à-dire du châtiment de la tombe, c'est pas rentré dans leur esprit et dans leur raisonnement qu'il peut y avoir un châtiment dans la tombe. Et ils ont renié le châtiment de la tombe. Alors que les versets du Coran et les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plus que clairs par rapport à cela. Et ils sont nombreux. Donc on voit ici, taqdim al-aql ala al-naql. Et c'est le problème de beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, certaines personnes, tu vas leur demander par rapport à ce qu'ils vont penser sur des textes, ils disent, si moi, ça rentre dans ma raison, ce texte, Inch'Allah, je l'accepte. Sinon, hein, j'essaye de voir ce qu'il veut dire, le faire sortir de son droit, le faire sortir de son sens apparent, et de tomber donc, comme on l'a dit, il n'a même pas de shah, le tashabi, l'arabe et la muhkam, etc. Donc on a dit c'est al-bab wasi' jiddan, on a naktafi faqad bil ishara. Ensuite le septième point c'est tajannub at-ta'wilat aw at-ta'wil wa at-tahrif fi al-aqida wa fi al-din bi sifat 'am. C'est-à-dire que les gens de la sunna et du consensus lorsqu'ils ont argumenté ils se sont écartés de ce qu'on appelle at-ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation, wa at-tahrif qui est l'altération. Donc l'interprétation dans ce qu'on dit ta'wil, bien entendu ce terme-là, au niveau de la langue arabe, il est un terme qui est acceptable. Car on sait que ta'wil, c'est un terme qui a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a fait la dua à Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, l'homme allimu ta'wil, c'est-à-dire, apprends-lui, ta'wil démarre la taksir, c'est-à-dire c'est l'explication. Ta'wil. Et on sait que certains savants, comme l'imam Ibn Jamil al-Tabari, l'imam al-Mufassirin, il a appelé son livre ta'wil également, c'est-à-dire le tafsir. Donc à partir de là, il y a le ta'wil, celui que l'on veut ici, qui est concerné, c'est le ta'wil al-fasid, celui qui est contraire au sens apparent des textes, que ce soit fil asma ou sifat, que ce soit dans les textes qui concernent les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, ou alors la croyance de façon générale, et autres également. Donc les gens, l'innovation, eux, ils n'en reviennent pas à ce qui est indiqué apparemment dans les textes. Mais ils vont interpréter, et interpréter de manière qui est fausse, de manière qui n'est pas acceptable par rapport à la religion. Également donc, et ça, on le voit beaucoup, finalement aussi pas, de même, toutes les sectes, que ce soit Al-Mu'tazila, que ce soit Al-Ashaira, et les autres qui sont égarés, Al-Maturidiya, qui sont égarés, Fiyad al-Bab, dans ce chapitre, on voit qu'eux aussi, ils sont rentrés dans le ta'wil, ils ont donc interprété les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, par ce qu'ils n'indiquaient pas, et qui n'avaient même rien à voir par rapport à ce qu'ils indiquaient en apparence, comme le fait d'avoir interprété les mains d'Allah Azzawajal par Al-Qudra, c'est-à-dire par la force, etc. Tout ce que l'on connaît dans Fiyad al-Bab, dans ce chapitre-là. Également, le tahrif, c'est-à-dire altérer les textes, que ce soit le tahrif, al-lawi ou al-ma'nawi, c'est-à-dire al-law, ils ont tout simplement altéré les textes. À titre d'exemple, Al-Mu'tazila, de même, pour ce qui est de la Sha'ara, lorsqu'ils ont voulu renier qu'Allah Azzawajal lui parlait, précisément ceux qui ont été à Shaddu Adawa, à Fiyad al-Bab, yani Al-Mu'tazila, et on sait ce qui est arrivé du temps de l'imam Ahmad, rahimallahu ta'ala, ils ont voulu donc, ils ont altéré les textes même du Coran, les versets même du Coran, pour prouver qu'Allah Azzawajal, d'après où est-ce qu'il voit, qu'Allah Azzawajal ne parle pas. Lorsqu'ils sont venus à ce verset, « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » Ils ont fait un tahrif l'orvi. Ils ont remplacé Allah, ou ici qui est sujet, par en mettant l'orvi al-jalala mafoulun bih, c'est-à-dire donc bil-fatha. « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » C'est-à-dire ici, au lieu que le verset, le sens du verset soit « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » Et Moussa, bien entendu, ici, la dernière lettre, elle apparaît pas. c'est-à-dire al-fatha, elle n'apparaît pas bien entendu, comme c'est connu dans les règles de la grammaire. Donc eux, ils ont joué sur le lafz al-jalala. Donc le sens qui est, et Allah il a parlé à Moussa de manière explicite et claire, wa kallama Allah Moussa taklima, ils ont inversé, ou ils ont changé harraf al-qalb, wa kallama Allah. Donc ça veut dire que maintenant, c'est Moussa qui a parlé à qui? À Allah Azzawajal. Allah va de tahrif, tahrif al-lafzi. Ils sont également venus au tahrif al-ma'nawi. هذا الباب واسع جدا تحريف المعنوي وهذا التحريف on va le retrouver également malheureusement chez beaucoup de musulmans qui utilisent sans même s'en rendre compte التحريف المعنوي qui utilisent cela sans même s'en rendre compte beaucoup parmi les musulmans même s'ils font partie يعني من عامة الناس ils font partie من أهل السنة par exemple certaines personnes ils vont dire réciter le Coran jama'atan, ou alors dire des adkar jama'atan, ça fait partie de la sunnah. Ils vont revenir par rapport à cela, à des textes de la sunnah qui fait l'éloge des gens qui rappellent Allah Azzawajal, des gens qui lisent le Coran, et beaucoup, bien entendu, beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là. Ils ont pris ces textes-là et ils les ont fait sortir de leur contexte, et ce qu'ils indiquaient, ils les ont mis dans un autre contexte. Voilà, dans un autre champ d'application. Et ils en ont donc tiré une argumentation pour dire que ce qu'on en fait, c'est autorisé, car on a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i, il dit cette parole-là. Regardez ce qu'il va dire. Il faut bien faire comprendre l'opération qu'ils ont fait ici, sans même s'en rendre compte, que cela rentre dans le tahrif. Il dit l'imam, yaridu dalilu ala mamatin. C'est-à-dire que la preuve, elle advient dans un contexte qui est bien précis, dans un champ d'application. Taïb, comme on a dit, parce qu'il y a l'adkar, parce qu'il y a la récitation du Coran. Ayusrafu an dhalika al-manat ila amrin akhar. Donc ils vont faire dévier maintenant cette preuve qui est dans son contexte, dans son champ d'application, vers un champ d'application qui est différent, dans un contexte qui est différent. Ila amrin akhar. Taïb, muhiman an al-manatayn wahid. C'est-à-dire qu'ils vont ensuite feinter, ils vont dire que les deux contextes, en réalité, c'est les mêmes. Le fait qu'on récite le Coran hein, seul, le fait qu'on récite ensemble, le fait qu'on dit du dhikr seul, le fait qu'on dit du dhikr ensemble, c'est la même chose. Les hadiths du prophète sallam, ils concernent le même contexte. Donc on peut l'utiliser. Ça, c'est également du tahrif. C'est pour ça qu'il dit ensuite, « Wala min al-tahrif, tahrif al-kalam, al-mawabi'i, ayyadun billah. » Donc on voit que même l'imam al-Shatibi, rahmallah, il met en évidence que des gens, ils tombent dans le tahrif sans même, il y en a beaucoup parmi eux, يعني avec ignorance. Ça donc c'est pour ce qui est de تجنب التأويل والتحريف في الدين بصفة عامة ou بصفة خاصة في العقيدة. Ça c'est le septième point. Donc on voit ici quelle était la voie des gens de la sunna et du consensus en ce qui concerne la religion et plus précisément l'istidlal, c'est-à-dire la méthode argumentative. Simplement je parlais d'un comme ça l'appelle. Maintenant, on va parler simplement de, vu qu'on a fait, donc on a répertorié ces points qui étaient essentiels, on va parler d'une chose qui est présente aujourd'hui. Une chose qui est présente aujourd'hui. Ici même, parmi les frères, certainement les frères beaucoup le savent, mais c'est bien de le rappeler. Et pour prouver également comment les gens d'innovation, ils ont donc opéré. Et qu'ils ont été à l'inverse de tous les points qu'on a dit. À titre d'exemple, un des groupes que l'on retrouve ici, que l'on trouve en France, que l'on trouve dans le monde entier, qui s'appelle Jamaat Tablir, c'est-à-dire le groupe Tablir. Tout le monde connaît qui est le groupe Tablir. Taïb, Jamaat Tablir. Lorsqu'on voit comment cette Jamaat, comment ce groupe, il était mis en place, et comment leur travail, il a été mis en place, sur quelle base, on va s'apercevoir de façon qui est des plus évidentes. Il ne peut pas rester en réalité une ambiguïté. Que ces gens-là, ils se sont bien basés sur un procédé qui est digne des gens d'innovation. Lorsque le groupe Tablir s'est mis en place, on sait que son fondateur, principalement, c'est Mohamed Milias. Que lui, il a pris cette fikra de l'interprétation d'un verset du Coran. Regardez bien, de l'interprétation, on est bien dans l'interprétation d'un verset du Coran. On va voir ici la première mukhalafa. La première mukhalafa, c'est lorsqu'on doit dire « hasr istidal fi dalil al-shar'i », c'est-à-dire qu'on s'en tient uniquement à la preuve. On s'en tient uniquement à la preuve juridique. Qu'est-ce qui fait sortir la preuve juridique? Qu'est-ce qui va sortir de cela? il va sortir Al-Manamat. On sait qu'il y a des gens d'innovation parmi les soufias qui prennent des bases dans leur religion qui sont prises de quoi? De ce qu'ils ont vu dans leur rêve, leur chidour. Le shir, il a vu dans son rêve une telle chose, alors ils le mettent en application au nom du dîn. Ils ne reviennent pas donc d'Ali Shah. On voit qu'ils ont été, qu'ils sont écartés. Lorsque cette personne elle a pris l'interprétation d'un des versets du Coran qui est le suivant, كنتم خير أمتي وخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه آية القرآن واضحة. طيب. Il a donc interprété ce verset suivant un manam, suivant donc un rêve qu'il a fait. Donc on voit ici qu'ils sont revenus au rêve. Il n'est pas revenu au dalil en lui-même. Il est revenu au rêve par rapport à l'interprétation. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il va interpréter, et ça se rend dans le deuxième point, parce qu'on dit khams salaf salih, c'est-à-dire avoir la compréhension des textes suivant comment l'ont compris les plus prédécesseurs. On va s'apercevoir que l'interprétation qui va être donnée, le tafsir de ce verset, est complètement contraire à ce qu'on dit les salafs, à ce qu'on dit les plus prédécesseurs. Comment ils l'ont interprété? Dans un premier temps, il dit de lui-même, Mohamed Ilyas, il dit de lui-même cette parole-là, pour dire que c'est bienvenu d'un manam. Il dit Umirtu bil qiyam, regardez, donc un ordre qui lui est venu, Umirtu, c'est-à-dire j'ai été ordonné, bil qiyam, bihad al-am, c'est-à-dire d'accomplir cette chose-là, qui en fait établir, bien entendu, suivant les passes qu'ils ont mis, suivant la voie qu'ils ont innovée. Afna iqamati fil Medina, lorsque j'étais donc à Médine. وقيل لي يوم الدين قوم بين انطلوي سيف في المنام وما لي من غير سوف نستعملك ونكلفك بعمل c'est-à-dire qu'on va t'utiliser et on va donc te charger d'un acte. On va regarder ça revient dans le sens du manamat. L'amr جاء من المنامات. On va utiliser le verset du Coran. Il peut avoir, qu'est-ce qu'il va avoir ici le verset du Coran? Ensuite, il va revenir sur l'interprétation du verset du Coran. Et dans un premier temps, l'amr il est venu d'où? L'amr il est venu de quoi? Du manam. Il n'est pas venu d'un verset du Coran directement ou alors d'un hadith du prophète Zain. Hassan al-Sidal, terminé. Il est sorti donc de cette première voie des salafs. La deuxième chose, il n'a pas compris, ou alors il a interprété en contradiction avec ce qu'ont expliqué les salafs, pour ce qui est donc de ce verset du Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Lui, il a interprété Kuntum khayra ummatin awlan al-arab. Les meilleurs parmi cette communauté, il a interprété les arabes. Ukhrijat linnas, qui sont sortis donc pour les gens. Les autres gens, donc, ce sont les non-arabes. C'est la première interprétation. L'arabe, il a la haji. Alors que, lorsqu'on reprend tous les tafsirs de Ibn Kathir, Ibn Jarir, et qu'on revoit donc, tafsir, al-sahaba, ils vont donc nous rappeler que al-maqsoud, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sont les sahaba. Ce sont les compagnons. Et ceux qui ont été bien entendu dans sa voie. Et ma'na ukhrijat, il va bien interpréter ukhrijat, et ma'na al-tanakulat. C'est-à-dire donc le fait de se promener sur la terre, le fait de se promener sur la terre et le fait, ce qu'on appelle le siha, le fait donc de faire du tourisme yani religieux, comme on pourrait appeler cela. Alors que l'ukhrijat, comme cela a été interprété par la plupart des salafs, gimana udhirat, elle est apparue, l'ukhrijat elle est apparue, ou alors on l'a fait apparaître pour les gens. Ça n'a rien à voir entre le fait de faire apparaître et le fait d'interpréter les termes khrijat, bimana, tanakulat, bimana, siyaha, etc. Ensuite, pour ce qui est du reste du verset, donc on voit la différence qu'il y a entre l'interprétation qui était faite par les salafs et l'interprétation qui était faite par cet homme. Puis lui aussi, il voit l'interprétation bilmananat. La deuxième chose, et ça c'est un point qui est fondamental, lorsque, on voit dans la suite du verset, et ça c'est la condition, lorsque Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a interprété ce verset, comme Salam ibn Kathir et d'autres, il a dit cette parole. Et on voit que dans la suite du verset, Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est-à-dire, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Il dit ça, c'est al-shart, ça c'est la condition. Pour qu'on soit khayr ummatin, pour qu'on soit la meilleure des communautés qui est apparue pour les gens. La condition, c'est ça qu'il a dit Omar ibn Khattab. أيها الناس من صغر وأن يكون من تلكم الأمة فليؤدي شرط الله فيها. C'est-à-dire, oh vous les gens, celui, il a dit ça, Omar, il dit, oh vous les gens, celui qui veut être parmi ces gens-là, de cette communauté qui est la meilleure, alors فليؤدي شرط الله فيها. C'est-à-dire qu'il met en pratique la condition qu'Allah a dit. C'est quoi cette condition? C'est مُنُوا دَمِ الْمَعْرُفَ تَنَعُونَ عَنِ الْمُنْكَ. Vous obligez, vous rendez obligatoire, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et c'est quoi ordonner le bien et interdire le mal? Quel est le plus grand bien que l'on peut ordonner? C'est quoi? Hein? Le tawhid. C'est le tawhid. C'est bien entendu l'unicité d'Allah Azzawajal, qui était le travail fondamental et premier de tous les prophètes. Est-ce que maintenant, ils appliquent cela? C'est-à-dire, ils ont appliqué, après avoir donc interprété à leur façon, est-ce qu'ils ont appliqué la condition d'Allah Azzawajal pour devenir la meilleure communauté? C'est-à-dire, et un appeler les gens au tawhid et apprendre le tawhid et donc ensuite le transmettre ce tawhid-là pour qu'on fasse partie donc réellement de la meilleure communauté. Donc on voit ici que l'interprétation elle est complètement fausse et qu'elle est complètement à l'opposé de ce que nous ont expliqué à Salaf et qu'elle a été prise donc pour mettre en place ce mouvement, pour mettre en place donc cette nouvelle secte qui apparaît dans ce siècle. Donc on voit ici, ça c'est un exemple qui est plus que clair, si on appliquait uniquement par rapport à ce groupe, ils sont revenus donc aux règles qu'on a expliquées, c'est-à-dire les 7 règles. Que ce soit ce groupe-là, d'autres groupes encore, on pourrait parler, et on pourrait, donc à la suite de cela, on pourrait voir que ce soit Mindab al-Qawaid al-Istidlal, que ce soit Mindab al-Tawil, etc. Subhanallah wa bihamdika, shalom la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.